Radio FR.
La cafette.
La cafette.
Mwangata, alors c'est du suédois, hein, je le dis un petit peu évidemment francisé, mais en tout cas c'est le titre de la nouvelle création de la compagnie fribourgeoise Rose & Cause, et c'est à voir à Nuttony à partir de ce soir, et puis tous les soirs jusqu'à dimanche y compris. Dans cette émission, vous pourrez même gagner quelques invitations pour demain soir. J'ai le plaisir d'accueillir Joëlle Richard, qui est l'auteur, conceptrice, metteur en scène de ce spectacle. Bonjour Joëlle.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous apparaissez sur scène aux côtés de Raïssa Mariotti et Mirabel Gromeau dans ce spectacle que vous avez commencé à écrire, Joëlle, il y a un petit moment déjà, durant le confinement de mars 2020. Oui. C'est un article comme ça qui vous a mis un petit peu la puce à l'oreille.
Oui, complètement. En fait, je devais travailler sur un autre spectacle et qui était vraiment très malvenu au niveau du timing parce que ça parlait des solitudes qui se croisent dans le fourmillement des gares. Et c'était vraiment, vraiment une très mauvaise idée. Et puis, je me suis retrouvée incapable d'écrire avec un but précis. Par contre, comme j'étais confinée seule, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai ritualisé ma journée. Et le matin, je travaillais sur d'autres choses, et l'après-midi, je me suis gardée des heures pour écrire, vraiment pour me mettre devant la page et me dire maintenant, utilise l'écriture comme moyen d'évasion. Et là, je me suis dit, bon, ok, alors où est-ce que je pourrais m'évader? Où est-ce que je pourrais oublier la réalité du moment qui était difficile à digérer et à appréhender? Et il y avait deux solutions, c'était Londres et Venise. Et puis, c'est là que j'ai lu un article, je crois, mi-mars ou fin mars 2020, qui disait que comme les gros navires de croisière pouvaient plus aller plus à Venise, en fait, comme partout, la faune réapparaissait et donc les poissons réapparaissaient dans les canaux de la ville.
Il n'y avait pas même des dauphins.
Oui, il y a eu plein de choses, ouais. Et il y a quelque chose dans ma tête qui a dit, ah tiens, c'est marrant, et si les sirènes revenaient? Et le croisement de ces deux envies, donc de partir mentalement dans une ville que j'aime, et à la fois cette information-là, ça fait tilt. Et j'ai ressorti mon carte-ville avec de Venise annotée et tout, je me suis mise devant. Et puis là, l'histoire est venue.
Et on dirait que c'est venu. On dirait que cette sirène, elle a pris vie dans votre tête. C'est un peu ça qui s'est passé. Elle a tout de suite existé, cette sirène?
Oui, je sais, je peux pas vous expliquer pourquoi. Je dis souvent ça pour les histoires. J'ai l'impression que je fais un petit peu l'antenne. Il y a un personnage qui a envie de raconter son histoire et puis il passe par là. Puis si on ouvre un petit peu, ben hop, il s'infiltre et dit ok, alors je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Et
du coup, ça sort.
Et du coup,
facilement.
Ça sort. Ouais.
Génial. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'une sirène. Et c'est plutôt compliqué et c'est plutôt douloureux.
Oui, enfin, comme toute mue ou comme toute histoire d'amour fondamentale qui vient ébranler une réalité qu'on n'apprécie pas forcément, qui n'est pas forcément en adéquation avec notre fil intérieur, avec nos envies. Mais enfin, on connaît, je pense, toutes et tous ça. À un moment donné, de se dire, ben voilà, on fait des choix parce qu'on a une pression sociale, une pression familiale, parce qu'il faut, parce que c'est plus raisonnable. Et puis finalement, on se retrouve pris dans un train-train qui fait pas forcément écho à qui on est réellement à l'intérieur de soi. Et c'est finalement ça qui est douloureux. En fait, c'est de faire semblant ou de mettre sous le tapis tout ce qui nous anime et qui nous rend vivantes et vivants. Et qui nous permettrait d'être vraiment nous-mêmes, et quelle que soit cette chose d'ailleurs, ça peut être une histoire d'amour, une orientation, mais ça peut être une passion, un travail, ça peut être. On fait tellement de choix, je crois, parce que justement, on a l'impression, moi j'appelle ça le perroquet empaillé sur l'épaule. On a digéré en fait tous les discours extérieurs, souvent sans forcément réaliser que c'est le cas. On peut avoir l'impression qu'on est très libre, en fait, mais si on regarde concrètement, on est conditionné par vraiment beaucoup de choses. Et donc, cette femme entend un appel qui est vraiment un appel du merveilleux, un appel à la vie, à la chair aussi, à retrouver le lien, puisque Je pense qu'on a tous traversé ce premier confinement. Est-ce qu'on vit encore maintenant comme un éloignement de l'autre et de l'humain? On ne se touchait plus, on ne se voyait plus. Il y a quelque chose, tout d'un coup, on devenait quoi, des purs esprits, puis même pas. Enfin, c'est très étrange, cette désincarnation. Et cette sirène, elle arrive et puis elle dit, ben voilà, moi je te trouve belle. Elle lui tend la main, elle dit, voilà, qu'est-ce que tu fais avec la main que je te tends? Et ça, forcément, c'est... c'est un coup de foudre, mais c'est un coup de tonnerre aussi. Mmh. Et du coup, ça fendit ce personnage, cette Vénitienne, complètement. Ça fait éclater tout ce qu'elle pensait savoir d'elle, tout ce qu'elle pensait vouloir aussi. Et ça, ce passage-là, évidemment, la crise au sens antique du terme, elle est douloureuse. Mais la crise ensuite, si elle est assumée, si elle est écoutée, elle va toujours mener vers quelque chose, enfin, on espère, vers quelque chose de meilleur et de plus en adéquation. Donc la mue est compliquée, mais après, certaines mues peuvent être merveilleuses dans le résultat.
Oui, et ça prend du temps, c'est ce qu'on voit aussi sur scène avec cette Vénitienne qui fait un pas, qui recule de deux pas, qui se rapproche à nouveau de cette sirène, jusqu'à finalement se retrouver et puis accepter... ses envies, ce qu'elle est aussi.
Oui, je pense que ça, c'est vraiment un réalisme qui est voulu, mais qui s'est imposé. Ce personnage m'a imposé son rythme. Et c'est juste une transformation. Elle ne peut pas se faire... On ne peut pas être complètement englué dans une réalité et quand même avoir un voile devant les yeux. Et puis le lendemain, se dire, hop, c'est bon.
Oui.
Alors, il y a toujours l'appel. Hein, les premiers moments, c'est sympa. On dit, voilà, mais après, il faut affronter. Il faut affronter le l'ancrage dans la réalité. Après, la parenthèse amoureuse, il faut affronter le regard des autres. Est-ce qu'on construit? Comment on construit? Et c'est cette phase-là qui est compliquée et qui peut être très longue.
Alors, avant de continuer de parler du spectacle, parce que c'est très très intéressant tout ce que vous avez amené là, Joël, du perroquet empaillé sur l'épaule et du fait qu'on est conditionné par l'extérieur et par nous-mêmes parfois. Vous, c'est quelque chose dans votre vie dont vous êtes assez consciente et puis régulièrement, vous regardez qu'est-ce que je fais, pour qui je le fais, comment je le fais. C'est aussi, entre guillemets, un art de vivre, une démarche consciente que vous avez.
Oui. Puis je pense que je suis loin d'avoir tout découvert. Mais je pense aussi que l'écriture, si elle est vraiment ancrée, à la fois dans l'émotion et dans dans les profondeurs, elle doit aller voir les ombres. C'est comme amener le flambeau et aller regarder ce qu'il y a et mettre les ombres en lumière. Et je pense que c'est difficile de proposer un spectacle qui parle d'une transformation quelconque sans avoir été voir. Sinon, c'est de la théorie. Puis bon, la théorie, c'est bien joli, on sait tous. Bon, t'es gentil, mais... Donc, je pense pour qu'il y ait une vraie ingestion et digestion des choses, il faut avoir fait le chemin. Les anglophones, ils disent toujours... le travail de l'auteur, c'est de prendre les spectateurs par la main, de les emmener au plus noir de la forêt, et ensuite les faire ressortir en les gardant par la main. Oui. Et à la fin, on leur dit, vous voyez, ça va très bien se passer, tout va bien, la lumière est par là. Mais si on veut faire ce chemin, il faut aller dans la forêt. On ne peut pas les laisser, nous dire, voilà, c'est par là, débrouillez-vous. Donc oui, je crois que l'introspection... Et puis c'est fascinant de voir de quoi on est fait à tant de niveaux... des gens qui sont là, les gens qui sont plus là, les ancêtres, justement les conditionnements de société, il y a un sacré boulot. Oui.
Alors, dans cette relation entre cette femme vénitienne et puis la sirène, tout le monde peut se retrouver, d'une femme à un homme, d'un homme à un homme, d'une femme à une femme. Ici, vous avez choisi la relation femme-sirène. C'est aussi un clin d'œil que vous faites aux discriminations, de manière générale, à la communauté LGBT+.
Oui, alors bien sûr, c'est plus qu'un clin d'œil. Oui. La sirène, elle s'est imposée, je pense, pour amener du merveilleux. Alors, on ne racontera pas la fin, mais et pour transformer en fait l'histoire un petit peu en fable. Mm-hmm. Mais c'est un choix qui s'est vraiment imposé. Décaler un petit peu du réalisme. Après, oui, évidemment, moi j'ai un propos scénique. Enfin, je suis revenue à l'écriture parce que je voulais écrire pour les femmes. Après avoir monté Shakespeare, après les classiques, au bout d'un moment, je me disais, mais ces personnages féminins-là, ils ne m'intéressent pas tellement, en fait. La soubrette, la maîtresse, ok, c'est sympa, mais c'est très objectifié. Mmh. Et finalement, ça, dans beaucoup de pièces, je trouvais que les rôles féminins manquaient de profondeur et de réalisme. en fait. Parce que les femmes que je connais, finalement, je ne peux pas tellement leur dire « Ah bah oui, celle-là, c'est typiquement le rôle-là.
Oui, »
J'en ai beaucoup plus que ça. Et donc, je suis arrivée à l'écriture pour ça, pour pouvoir parler de personnages féminins qui étaient multicouches et qui étaient vraiment, pour moi, un écho de ce que je pouvais vivre ou ce que les personnes autour de moi pouvaient vivre. Et puis là, c'est un pas de plus. Je pense qu'il reste encore beaucoup de place partout pour parler du désir féminin. Mmh. On a l'impression, alors certainement les nouvelles générations, les gens qui ont 20 ans maintenant, sont beaucoup plus fluides dans leur notion du genre, s'affirment beaucoup plus. Les femmes aussi reprennent, les jeunes femmes reprennent le flambeau du féminisme qui était devenu vraiment un gros mot pendant de nombreuses années. Mmh. Et je pense que c'est vraiment très bien, mais il y a un angle mort encore. Et dans le désir féminin en général, pour qu'on échappe au cliché de la femme cougar, et parce qu'après on retombe dans les images porno, puis on se dit non mais sérieusement quoi, c'est un petit peu plus que ça le désir féminin. Alors en plus, si vous parlez du désir entre deux femmes, on avait souvent cette idée que les mecs, on les voyait mais ils se faisaient caillasser, et puis les femmes, les lesbiennes, non, elles n'existaient pas. C'est vraiment des femmes invisibles. Mmh. Deux femmes qui se tiennent la main, non, c'est des copines. Non, en fait. Mmh. Et je trouve qu'il y a encore... En ce moment, je regarde pas mal de séries. Les Anglais sont très en avance avec ça. Arrivent vraiment à avoir des rôles de femmes lesbiennes qui sont entrées dans une normalité et qui sont vraiment traitées comme des personnages complexes. Ce que je trouve vraiment très bien et très intéressant pour aller dans une, entre guillemets, une banalisation. Parce que plus on en voit, plus on peut s'identifier, plus ça évite aussi à des jeunes femmes et des jeunes hommes de... atteindre à leur jour adolescent, puisqu'on sait que les suicides sont beaucoup plus nombreux chez les jeunes qui ne s'identifient pas forcément à une norme hétéro. Donc ça, c'est très bien. Mais on reste, dans beaucoup de séries américaines, par exemple, les hommes s'embrassent sans trop de problèmes. On dit, oh, ils sont choux, puis ils sont mariés, puis voilà. Et puis les femmes, ils restent, elles sont montrées comme dans une relation où il y a vraiment une tension homo-érotique, mais c'est mère-fille. Enfin, personne n'y croit, ce genre de truc. Et là, je trouve que c'est dommage. Je pense qu'on peut parler des choses... On a une tribune pour parler des choses de manière beaucoup plus simple. Mmh. Et juste dire, ça existe, et c'est là, puis... C'est chouette aussi, quoi.
On est en retard. Vous faites un pas avec ce spectacle dans cette direction. Vous pensez que ça va venir de plus en plus aussi à la télévision, dans les séries, au théâtre?
Je pense que c'est forcé, entre guillemets, puisqu'on a voté quand même oui au mariage pour toutes et tous. Et là, étrangement, on discutait de ça à l'Université de Lausanne. C'est comme si, là, pour une fois, la loi avait été plus vite que la société. Mmh. De manière générale, dans notre pays, on a de la chance. Enfin voilà, il y a une place pour les communautés LGBTIQ+. Certainement, c'est plus facile à vivre dans les grandes villes comme partout que dans les villages, mais encore, ça progresse. Mmh. Par contre, il reste beaucoup de choses à faire sur le terrain. Si vous travaillez dans beaucoup d'entreprises, si vous êtes à la cafette et puis que vous discutez avec vos collègues, vous ne dites pas encore indifféremment mon compagnon ou ma compagne. Donc ça amène beaucoup de gens dans la vie de tous les jours, même des gens qui travaillent dans des entreprises qui sont a priori LGBT-friendly, à camoufler, à dire essayer de noyer un peu le poisson. Puis vous vous retrouvez dans des situations qui sont inconfortables, qui sont des semi-mensonges. Ou alors, vous êtes obligé de faire votre coming out en permanence. Parce que c'est ça aussi, on dit « Ah ben oui, les personnes dans cette situation font un coming out, puis c'est bon. » Non. Si vous allez dans un magasin, vous prenez la main de votre compagne, c'est un coming out, c'est un geste politique, ça reste un geste politique. Vous croisez une personne, vous devez repréciser, etc. Et on voit par exemple que les infirmières qui travaillent avec les jeunes, il y a une étude qui a été faite, je crois que c'est à Genève, je parle de bêtises, mais qui avait été faite auprès de toutes les infirmières scolaires. Et puis, ils avaient demandé, est-ce que vous êtes confronté à des jeunes qui viennent vous voir en disant « Moi, je ne suis pas sûre de mon orientation sexuelle, etc. » Et la plupart des infirmières avaient dit « Non, pas du tout. Rien du tout. Alors, vraiment. » Et une, oui, tout le temps.
Ah.
Alors, ils se sont dit « Mais alors, pourquoi elle ? C'est bizarre. C'est quoi ? C'est le quartier ?» Et ils lui ont demandé de montrer son protocole, en fait, comment elle parlait aux jeunes. Et... la première chose qu'elle leur demandait, c'est « Est-ce que tu as un copain ou une copine ?» Indifféremment, c'était la phrase. Et donc évidemment, ce genre de phrase, on sait dans cette situation-là qu'on peut être accueilli et donc ça libère la parole. Mmh. Et ça, on n'y est pas du tout encore au niveau sociétal. Donc oui, c'est bien, il y a eu des progrès extraordinaires qui ont été faits, on est quand même extraordinairement en retard aussi au niveau suisse, enfin, genre, c'est quand même, on est quand même en queue de peloton là, au niveau européen, c'est pas terrible. Donc oui, voilà, parlons-en.
Donc ça, c'est le propos effectivement social, sociétal de ce spectacle. Néanmoins, ce que vous me disiez avant l'émission, c'est que vous n'avez pas non plus envie de ghettoiser et puis de fermer ça justement à ce milieu-là. Et comme on le disait avant, tout le monde peut reconnaître ce genre de problème dans une relation.
C'est ça, il y a à la fois une histoire d'amour et j'espère qu'elle est universelle et vraiment j'espère que des gens qui sont dans une hétéronormalité, entre guillemets, comme on dit maintenant, qui viennent au spectacle se reconnaissent là-dedans parce que je pense qu'il y a toutes les interrogations et toutes les phases d'acceptation d'une rencontre quand elle est aussi forte que ça. Mmh. Et puis il y a justement cette confrontation à toutes les entraves qu'on se met soi-même.
J'aimerais revenir un petit peu sur la sirène parce que c'est quand même un personnage magique et puis déjà quand on est petite fille, les sirènes c'est très beau, ça fait rêver. Vous, c'est un personnage qui vous touche comment ? Est-ce que pour ce spectacle, évidemment, vous avez remonté un petit peu les légendes, la sirène d'Anderson ou d'autres ?
Oui, j'ai cherché beaucoup de choses, mais en fait, contrairement à d'habitude, j'étais assez frustrée par ce que j'ai retrouvé. Les sirènes, c'est quand même, elles sont partout, puis en même temps, c'est pas franchement très intéressant.
Ah.
On retrouve un motif qui est commun aux sirènes grecques. Donc les sirènes grecques, elles sont mi-femmes, mi-oiseaux. Et les sirènes nordiques ou les ondines, elles sont mi-femmes, mi-poissons. Mm-hmm. Après, on ne sait pas très bien comment c'est devenu un personnage, enfin une symbolique commune. Il y a quelque chose, enfin il y a plusieurs choses qui ressortent. C'est le chant qui envoûte les hommes, les marins pour les mener à leur perte. Et puis, cette féminité, en fait, effrayante, qui finalement est la même chose. La sirène, elle dévore. Oui. Elle séduit pour dévorer. Donc, dans la symbolique féminine, c'est pas franchement jouasse. Il y a vraiment, justement, ça devient un archétype du désir féminin anxiogène. Mmh. Ça, c'est assez commun à toutes les civilisations. Et au-delà de ça, ça reste très mystérieux. Alors, la sirène, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait le lien avec l'eau. Les symboliques de l'eau sont évidemment très très fortement ancrées avec le très très fortement liées avec le féminin. Et puis surtout l'eau, c'est aussi l'inconscient. On l'a dans les runes, on l'a dans les tarots. Enfin, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous qu'on va pas forcément regarder et qui, en période calme, comme pouvait être d'ailleurs le premier confinement, quand tout à coup on arrête cette agitation, ces choses là remonte. Et l'image de ça, en fait, c'est le reflet du soleil ou de la lune sur les écailles des poissons quand ils sont à fleur d'eau. Donc voilà, le lien s'est fait comme ça.
Et d'où le titre du spectacle aussi.
Exactement.
Agatha, qui est un mot suédois qui signifie.
C'est la route de lumière. Ça veut dire que c'est le reflet que fait la pleine lune sur l'eau.
Et pour en terminer avec les liens et les anecdotes, et ça vous le dites aussi ça fait partie du spectacle, à la fin je crois de l'écriture, vous vous êtes rendu compte qu'au Japon il y avait vraiment une symbolique aussi pour se protéger des pandémies.
Oui, alors il y a une légende qu'on raconte dans le spectacle, qui est celle d'un officier nippon en 1848, qui s'est retrouvé confronté à une forme de sirène. Alors c'était une sirène mais avec un bec, alors bon, on ne va pas finasser, mais et qui lui disait, écoute, si en cas d'épidémie, il faut me dessiner et diffuser partout mon portrait, et ça protégera les maisons, ça guérira les malades. Et c'est ce qu'ont fait les Japonais en 2020. Ouais. Ils se sont envoyés des sirènes sur les réseaux sociaux.
C'est incroyable. Alors, on va revenir à ce qui se passe sur scène. Et puis aux deux comédiennes, Raïssa Mariotti, d'une part. Alors, elle donne ce texte, évidemment. Je pense que vous adorez travailler avec elle, puisque c'est pas la première fois.
Oui, bah oui, oui.
Moi, j'ai adoré la voir. Elle a tellement de force, elle est tellement belle dans ce rôle. Là, il y a évidemment déjà, c'est presque un monologue.
Oui, on peut le dire comme ça, oui.
C'est impressionnant, c'est intense.
C'est clair.
Donc, chapeau. Et puis, ce qui est super beau dans ce spectacle, et alors, je ne sais pas ce que vous avez envie de révéler à l'avance ou pas, mais la sirène, elle est présente dans la personne de Mirabelle Gremaud, avec une harpe,
ouais.
Un looper. Elle accompagne tout le spectacle, c'est superbe.
Oui, on a fait vraiment un travail magnifique. J'avais vraiment envie, quand je l'ai rencontrée aux Impromptus, de travailler avec elle.
Mirabelle, donc.
Ouais. Et là, en ayant ce texte, je me suis dit, mais j'aimerais de la musique en live. Donc, logiquement, je lui ai demandé de composer des chansons. Donc, on a fait un énorme travail de dramaturgie musicale. Parce qu'après, c'est pas simplement on fait quatre musiques et puis on les met à un endroit et puis ça ira bien. C'est vraiment une partition qui est hyper fine, qui est très complexe. Et elle a fait un très très beau travail de composition, des fois avec des demandes assez absurdes et pointues de ma part. Et elle a à chaque fois trouvé des solutions qui sont magnifiques parce qu'elles sont vraiment le reflet des états émotionnels de la Vénitienne. Et donc sa présence, elle est fondamentale. Et elle nous plonge à la fois dans une ambiance, puis en même temps, elle nous prend par la main pour nous faire toutes les étapes du chemin à l'intérieur de nous-mêmes.
Donc elle joue, et puis évidemment, elle chante aussi.
Oui.
Avec une voix de sirène.
Magnifique. Ah oui, les sirènes chantent magnifiquement bien, donc très bon casting. Oui,
ouais, en tout cas, elle a une voix magnifique. Un tout petit mot aussi au niveau de la scénographie, juste pour dire que finalement, c'est très très simple. Et que tout ce côté aquatique ressort vraiment dans les costumes.
Oui, j'avais envie que ce soit à la fois très esthétique et puis garder une image, c'est celle de la femme au balcon avec la lune. Et donc c'est Anna Popek qui a réalisé la scénographie, qui est vraiment merveilleuse et qui permet aussi des angles de lumière assez fous. Donc j'aime bien travailler avec les tableaux, et là c'est vraiment ce qu'on fait. Et puis les costumes de Mireille de Saint-Gilles donc, sont assez extraordinaires, et notamment le travail sur la sirène qui est très complexe et qui est vraiment très réussi.
Il faut vraiment regarder la lune, on ne va pas la décrire, mais elle est vraiment très très belle. Cette lune qui a son importance aussi dans le spectacle, c'est vrai, hein, parce que la lune, c'est la marée, ça agit sur notre humeur aussi, à nous les femmes.
Complètement, la lune, c'est le symbole suprême de la féminité, de l'inconscient. Elle a aussi ce côté froid, mystérieux, angoissant. Et puis c'était ma référente tous les jours pendant le confinement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on perd la notion du temps, mais on perd jamais la lune et on perd jamais ses formes différentes. Il y a pas un jour où elle est pareille. Donc ça a été aussi mon interlocutrice silencieuse.
J'aimerais aussi dire que dans ce spectacle, moi je l'ai dit en début d'entretien, Joël Richard, vous avez un rôle de, je peux dire, narratrice en quelque.
Oui, oui. Hein,
vous donnez des informations sur le lieu, le temps, la situation, mais vous lancez aussi alors des faits d'actualité, des chiffres, des drames. Comment il s'est imposé ce personnage et qu'est-ce que vous avez envie de donner avec ça ?
J'avais besoin d'une mise en perspective. Parce qu'effectivement, l'histoire, malgré tout, enfin, pour moi en tout cas, reste une histoire optimiste. Et puis, depuis la votation, on entend souvent dire « Oui, c'est bon, maintenant tout est fait, arrêtez de nous emmerder, enfin, c'est bon, voilà. » Et ben non, c'est pas bon. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui ne marchent pas, et je trouvais intéressant de ramener toutes ces informations-là qui justement mettent les choses en perspective, qui permettent au public de réfléchir sans forcément dire « ouais, c'est bien, c'est mal », mais je dis « ok, là on peut en être là, ce que vous voyez ça existe, vous êtes en lien ou pas avec le personnage, mais enfin vous voyez ce qu'il traverse, je vous donne cette info-là, comment vous vous positionnez ». Ça je pense que c'est pas forcément frontal, mais ça permet d'ouvrir un peu le propos. Et puis aussi, en plein confinement, au bout d'une semaine, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles, de lire, j'en pouvais plus, les chiffres, on était complètement là-dedans. Donc j'ai réduit ça vraiment au minimum pour essayer à la fois de m'écouter et puis pas de me faire emmener par la vague anxiogène. Et donc j'ai gardé aussi dans mes inserts, dans la pièce, ce qui m'a traversé, tout ce qui a quand même réussi à venir jusqu'à moi quand j'ai écrit cette pièce. Donc c'était mon envie aussi de faire un clin d'œil à quelques petites bulles comme ça.
C'est vrai qu'on peut se poser la question, parce qu'en voyant le spectacle, on se dit qu'il peut... Alors, au début, hein, on entend qu'il y a le virus, les masques, les gants, on se désinfecte, etc. Le spectacle, il pourrait complètement exister sans la parenthèse Covid.
Oui, bien sûr. Mais il se trouve que c'est étonnant, comme j'ai pris 16 heures pour écrire, j'ai vraiment laissé venir. Et apparemment, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la sidération était telle, je ne pouvais pas du tout l'intellectualiser, je ne pouvais pas du tout en parler. Par contre, le corps vivait des choses de dingue. Et je pense que ça a vraiment été thérapeutique pour moi, l'écriture, de cracher en brut ce que ça me faisait physiquement. Ce qui est toujours un super terreau d'écriture. On dit qu'il faut garder que ça, que vraiment ce qui traverse le corps et pas parler avec le mental. Et donc, ça ne parle pas du Covid. Et franchement, je pensais réellement, là, montant cette année, que ce serait, il y a quelques mois, je me disais, ce serait assez bon, ça va faire pièce historique, c'est nul. Malheureusement, j'avoue que la résonance avec ce qu'on vit est encore présente, peut-être même plus qu'il y a un an et demi. Mais non, ce n'est pas un spectacle sur le Covid, c'est une histoire d'amour.
Ouais. Alors, on arrive déjà au bout de notre entretien. Il y a des rendez-vous à donner. Un bord de scène, par exemple, jeudi, à la fin du spectacle. Ça veut dire que vous vous asseyez au bord de la scène et puis qu'il faut papoter avec le public qui souhaite poser des questions.
C'est ça.
Tout simplement. Et puis samedi, à 17h30, une table ronde. Je vous laisse peut-être, Joël, donner l'énoncé.
Oui, alors ça s'appelle « Amour exposé ou femme invisible entre réalité et représentation des relations lesbiennes ». Et cette table ronde est animée par Manon Pulver, qui est également dramaturge. Et nous avons la chance de recevoir Caroline Dayer, Ilana Eloi, Camille Béziane et Elodie Houstin.
Très bien. Mais j'espère qu'on a dit beaucoup de choses, j'ai l'impression. On n'a pas tout dit, évidemment. Ça, le reste est à découvrir sur scène. Et puis chacun avec son ressenti et ses émotions, évidemment. Ça s'appelle Mwangata de et avec Joël Richard, Raïssa Mariotti sur scène et Mirabel Gremaud pour la composition musicale. Ce soir et tous les autres soirs jusqu'à dimanche dans la petite salle de Nuit Tony. On s'occupe maintenant des invitations si vous souhaitez aller voir ce spectacle. Demain soir à 20h à Nuit Tony, vous nous envoyez un WhatsApp au 079 127 70 60 et vous recevrez deux invitations. Joël Richard, un grand merci.
Merci à vous.
Et puis comment dire, un gros merde.
On se prend.
Yes, à bientôt.
À bientôt.